Elisabeth Sombart, vous êtes pianiste et fondatrice de Résonance. Comment est-ce que cette fondation est née? Comment avez-vous eu l'idée de cette fondation Résonance?
J'étais à Paris et je passais pour aller au conservatoire devant un orphelinat. Et en voyant les enfants dans la cour, je me disais, tiens, je pourrais aller leur donner des leçons de piano. Alors, je suis rentrée dans l'endroit, je suis allée voir la directrice, je lui ai dit, je viens vous voir parce que je voudrais offrir des leçons de piano aux enfants là. Ah ben non, elle me dit, ça ne va pas comme ça, d'abord nous n'avons pas de piano. Je suis ressortie. Une semaine après, je suis retournée. Je lui ai dit, madame, j'ai trouvé un piano, je m'occupe de tout. Elle me regarde, elle me dit, ça ne rentre pas dans notre cahier des charges. Comme je ne savais pas ce que c'est un cahier des charges, je suis sortie. Une semaine après, je reviens. Je lui dis, ben, vous n'avez qu'à le mettre dans votre cahier des charges. Et là, je crois qu'elle m'a eu en sympathie. Elle m'a dit, écoutez, vous, quand vous avez une idée en tête, hein, mais je vais vous dire, comme personne seule, ça ne marchera pas. Vous seriez une association. Ou... Comme je ne savais pas ce que c'était une association, je suis ressortie de son bureau. Et un mois après, je suis revenue et je lui ai dit, voilà, je suis l'association Résonance. Elle me dit, alors là, vraiment? Et j'ai commencé comme ça, parce que j'ai senti qu'il fallait faire ça. Je savais qu'un jour, je ferais des écoles gratuites, parce que j'avais vécu une expérience où j'avais compris l'importance de la gratuité. Je savais que dans cette école, il n'y aurait pas d'examen, parce qu'à 11 ans, moi-même, j'avais vécu de gagner un premier prix qui avait fait pleurer tous les autres et que je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas tous gagné le premier prix. Et que j'avais bien compris que, comparé un enfant à un autre, c'était tuer un des deux et que ça n'était justifiable en rien et surtout pas au nom de la musique. Donc les prémices de tout ce qui allait se faire dans la fondation et se développer dans les 20 ans qu'elle existe maintenant se sont faits petit à petit. Et ils se sont pas faits parce que quelqu'un ou moi en avait l'idée, mais parce que des hommes et des femmes en ont eu besoin à un moment donné et ont porté l'idée. Vous voyez, quand on me dit pourquoi tu as fait une filiale à Beyrouth, mais vous pensez bien que moi je n'ai certainement pas choisi Beyrouth. Alors quelqu'un m'a téléphoné, m'a dit « Il faut absolument que vous veniez jouer à Beyrouth, est-ce que vous seriez d'accord de faire un concert ?» J'ai dit « D'accord, mais il faut que ce soit au profit d'une association. »« D'accord », m'a dit cette personne, ils voulaient tellement que je vienne qu'ils étaient d'accord avec tout. J'ai dit « D'ailleurs, je veux bien faire aussi une masterclass, comme ça je viens pas pour rien une semaine. » À la fin de cette première semaine, les professeurs eux-mêmes sont venus me voir, ils m'ont dit « Faut revenir ». J'ai dit « D'accord ». Et comme ça, j'ai commencé, j'allais très très régulièrement au Liban, j'ai formé les professeurs. Petit à petit, on a créé notre propre école, créé la filiale Résonance là-bas, pour qu'ils portent aussi la musique, comme ça c'est une des bases de la fondation, de porter la musique dans les lieux de souffrance, la partager, la rendre au plus grand nombre, sortir de ce mensonge institutionnalisé que la musique classique appartiendrait à des gens riches et cultivés. C'est juste le contraire d'ailleurs. D'ailleurs, Chilibida, qui est notre maître, disait « Quand vous allez au concert, vous devriez enlever votre culture comme vous enlevez votre manteau au vestiaire. » Et vous savez, quand on va jouer dans les EMS, on dit en Suisse, dans les maisons de retraite, chez les vieilles personnes, en prison beaucoup. Alors on découvre que quand la personne est débarrassée des étiquettes, elle devient plus libre d'entendre. Vous voyez, dans ces endroits-là, les gens ne vous disent pas « je suis médecin, avocat », ils disent plus ça. Ils sont ce qu'ils sont dans leur essence. Donc cette espèce de co-création. Et c'est quelque chose que j'aimerais dire à tout le monde. Moi qui a tant souffert d'une manière presque anorexique d'affection quand j'étais petite, et qui l'ai tellement cherché en faisant tant d'erreurs pendant si longtemps, un jour on comprend que, on le comprend avec la tête, mais on vit cette expérience que c'est pas parce qu'on me dit « mais Dieu t'aime ». Oui, mais quand on n'a pas été aimé, ça marche pas. Mais par contre, quand vous comprenez que lui, il a besoin aussi du petit rien que je suis, alors la transmission d'amour se passe.
Je crois que vous portez aussi, Elisabeth Sombart, un autre projet qui concerne les femmes.
Tout le projet du site, de ce site internet qui s'appellera « Les femmes aux ailes brisées ». Moi, je me suis rappelée d'une conversation de mon père, qui était un grand sociologue. Et je me souviens d'une discussion que j'ai entendue entre mon père et un prêtre orthodoxe, qui est un père à Lausanne, qui a un immense charisme, et notamment d'aider les âmes à continuer après leur mort. Et il rayonne ce charisme d'une manière magnifique. Et mon père lui disait, vous savez, personne n'a pu vraiment prévoir la chute du mur de Berlin. Du point de vue humain, sociologique, économique, politique, ce n'était pas prévisible. Et le père Jacques lui a répondu, c'est sans compter avec la force et le travail des martyrs qui sont morts pour ce mur. De l'invisible au visible. De l'importance de toujours se rappeler que le monde de la chose-éité n'est pas sur terre. Tout se prépare déjà ailleurs et ensuite se reflète chez nous. Et pas le contraire. Et tout à coup, j'ai pensé à tous ces milliards de femmes qui sont mortes, assassinées dans l'anonymat, sans aucune reconnaissance. Je me suis dit, nous allons utiliser cette force. Parce que tant qu'on ne leur a pas donné un nom, si dans une foule je vous appelle sans dire votre nom, vous ne tournez pas la tête. D'ailleurs, même Marie-Madeleine, elle reconnaît Jésus quand il lui dit son nom. Je me suis dit, créons un site d'émerveillement et de mémoire. Alors vous rentrez dans le site, c'est une galaxie remplie d'étoiles, où vous pouvez aller dans tout le monde entier, mettre le nom d'une femme qui a été assassinée et qui n'a jamais été reconnue. Et vous pouvez lui offrir, ça c'est la deuxième possibilité du site, ce que vous voulez, votre journée, chacun offre ce qu'il veut. Pas question d'offrir de l'argent, c'est tisser les liens d'une fraternité retrouvée. Aussi bien avec celles qui meurent aujourd'hui et qui mourront demain, mais avec toutes les autres qui sont déjà mortes. Ce site, pour le faire connaître, parce qu'on est en pleine préparation de ça, et c'est un immense travail, parce qu'il faut un modérateur, il y a des problèmes de juridiction pour tous les pays, d'autant plus que ce n'est pas un lieu où on va parler ou donner notre opinion. On va simplement rendre hommage, consoler, reconnaître. Et pour faire connaître ce site, nous avons décidé avec Malika Sarabhai, la grande danseuse indienne, de faire un spectacle qui dure à peu près 1h10, où j'ai choisi 12 morceaux de musique classique, où Malika va danser toutes les étapes de la femme, de la petite fille qui rêve encore du prince charmant. Ensuite, on lui assassine son frère devant elle. Ensuite, on la marie, enfin jusqu'au martyr, jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de raisons qui nous ont décidé à faire ça ensemble. D'abord parce que elle est aussi indienne que je suis européenne, parce que son art, dont elle est l'instrument, est le plus abouti en Inde et celui que je représente aussi. Mais aussi parce que nous croyons que c'est par la beauté, que c'est par l'émerveillement, que la véritable ouverture de conscience peut se faire. Au fond, par l'émotion. Je me dis, avant d'être structuré, le monde était d'abord moche, on était d'abord émotion, non ? Dans le sens de... On structure, oui, mais ce qui va parler à l'être humain, au cœur, c'est l'émerveillement, c'est la beauté, c'est ce qui fait qu'on ne se regarde plus soi-même. Et il y a dans la danse de Malika, quand tout à coup elle danse la femme qui est obligée de tuer son enfant parce que c'est une fille, par exemple, c'est une des tant de choses que la femme doit faire, doit vivre. Il y a quelque chose de tellement fort dans son geste que ça va au-delà de l'intellect. On ne regarde pas ça en se disant « Oh non, mon Dieu, c'est affreux ». Mais on le vit dans une relation directe qui permet vraiment d'ouvrir le cœur. C'est, en tout cas, c'est ça qu'on prépare. Et à partir de fin 2012-2013, nous allons le porter pas seulement dans les grandes salles, mais aussi dans tous ces lieux de souffrance, en Inde, dans toutes les écoles de jeunes filles. Et vous savez, j'ai lu pour ce projet des centaines de livres, de témoignages de femmes. Et vous savez ce qui m'a le plus frappée ? C'est que celles qui ne sont pas encore mortes et qui ont témoigné disent qu'elles n'en veulent pas à leur frère ou à leur père de les avoir mis dans ces états-là. Les femmes en veulent aux autres femmes d'avoir été complices des hommes. Elles en veulent à la mère qui les a tenues. Elles en veulent à la belle-sœur, elles en veulent à leur sœur. C'est entre femmes que ça se passe, tout ça. La femme doit féconder quelque chose qui fait que l'homme la respecte. Mais ça vient de la femme, ça vient pas de l'homme. Si une femme aujourd'hui peut être tuée par un homme, ce n'est la faute de personne et en tout cas pas de l'homme. Parce que l'homme est le produit avant tout d'une femme qui l'a éduquée, qui lui a... Et je le vois bien dans toutes nos familles, même européennes, ne parlons pas seulement des familles et d'une certaine culture en Inde ou au Moyen-Orient. Le garçon a une place, encore aujourd'hui, que la fille n'a pas. On est arrivé maintenant au 21e siècle, donc le siècle qui clôt celui de la plus grande barbarie, au nom de choses graves qui n'existaient pas avant, parce que des barbaries, il y en a toujours eu, mais elles n'étaient pas faites au nom des droits de l'homme. Mais les arguments d'autorité sont très bien cachés aujourd'hui. Et l'homme se croit libre en allant au club méditerranéen, mais il est deux fois piégé. Donc finalement, les arguments d'autorité se sont déplacés d'une manière bien plus perverse qu'avant. Et il est de notre devoir à tous d'être aware, comme disent les Anglais, de prendre conscience de ça, de prendre conscience que chaque fois qu'on refuse une fausse liberté au nom de mots et de paroles si belles, on protège Dieu des hommes. Parce qu'au fond, il faut absolument protéger Dieu des hommes. Et ça me frappe beaucoup dans ce projet, vous voyez. C'est que chaque fois qu'on touche à l'homme, on touche à Dieu. Et c'est quoi le signe dans la musique ? C'est quoi le signe dans tous nos projets ? C'est que finalement, ça nous rapporte en nous à un silence qui ne fait plus peur, mais qui est un silence de vraie communion.